Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Amérindiens, portrait, lutte et reconnaissance. Fin de la série de portraits tirés de courrier international. Afin que les droits des peuples indiens soient reconnus, que les droits de l'homme ne soient pas bafoués. Hommage à ceux qui luttent dans leur pays respectif. En Bolivie, Casimira Rodriguez Romero, ex-ministre de la Justice, 41 ans. D'origine quechua, la bolivienne Casimira Rodriguez est la première indienne à avoir exercé les fonctions de ministre de la Justice en Amérique du Sud. Cette fille de paysan originaire du département de Cochabamba a connu l'exploitation et l'humiliation. À 13 ans, elle quitte sa famille pour travailler en tant que bonne. Quand elle demande un salaire pour ses 16 heures de travail journalier, sa patronne la congédie en l'accusant de vol. Pour que d'autres ne connaissent pas la même expérience, elle mène un combat pour la défense des employés de maison et fonde avec ses collègues en 1987 le syndicat national des employés de maison qu'elle présidera en 1996. Son principal succès est l'adoption en 2003 d'une loi réglementant cette activité avec l'obtention de droits tels que des horaires fixes et un jour de repos. Fin 2005, cette militante accepte le poste de ministre de la Justice dans le gouvernement d'Evo Morales. Elle ne restera au gouvernement qu'un an, suffisamment pour engager la réforme du pouvoir judiciaire. Cette dernière, en cours d'adoption, prévoit la reconnaissance de la justice communautaire, fondée sur les traditions des communautés. Aujourd'hui, Casimira se dit soulagée d'avoir quitté le gouvernement. Toujours vêtue de la pollera, la jupe traditionnelle, elle se consacre à la création d'une fondation des femmes boliviennes. Je considère mon arrivée au ministère de la Justice comme un pas vers la décolonisation. Aho, et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014? Aux États-Unis, John Trudell, poète et chanteur engagé, 61 ans. John Trudell est né en 1946 dans le Nebraska, d'un père Sioux, Santi, et d'une mère mexicaine. Il s'engage très jeune dans la marine américaine qu'il envoie au Vietnam. À son retour aux États-Unis, en 1967, il commence à militer au sein de l'American Indian Movement, l'AIM. Il se joint notamment à l'occupation du pénitencier d'Alcatraz en 1969 et devient l'animateur vedette de Radio Free Alcatraz, une station de radio pirate qui émet depuis l'île avec le soutien de stations locales de San Francisco. À la fin de l'occupation en 1971, il continue de militer au sein de l'AIM, dont il est nommé porte-parole national en 1973. Il occupe cette fonction jusqu'en 1979. Cette année-là, il brûle le drapeau américain devant le quartier général du FBI à Washington, au cours d'une manifestation contre les agissements du gouvernement fédéral dans le pays indien. 12 heures plus tard, sa femme et ses 3 enfants périssent dans un incendie. Il quitte alors ses fonctions militantes et se met à écrire. Son premier recueil de poésie, Living in a Reality, est publié en 1981. Il se tourne ensuite vers la musique et sort un album intitulé Tribal Voice. En 1986, il enregistre Aka, Graffiti Man, qui est jugé comme le meilleur album de l'année par Bob Dylan. Il a, depuis, sorti 10 d'albums, effectué de nombreuses tournées et joué dans plusieurs films, notamment Cœur de Tonnerre en 1992 et Phoenix, Arizona en 1999, sans jamais renier son engagement politique. Un documentaire intitulé Trudel, qui retrace sa vie, est sorti en 2006. Nous sommes opprimés, mais cela ne veut pas dire que nous avons perdu, que nous sommes soumis. Cela signifie simplement que nous sommes opprimés. Aho ! Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014 ? Au Brésil, Megaron Xucaramae, leader Kayapo, 56 ans. Le charismatique Megaron est considéré par la presse brésilienne comme le successeur de Raoni, son très médiatique oncle, aujourd'hui âgé de 80 ans, et grand chef des Kayapos, une ethnie vivant dans la vallée du fleuve Xingu, dans le centre-ouest du Brésil. Accompagné du chanteur britannique Sting, Raoni et Megaron avaient parcouru le monde en 1989 afin de faire campagne pour la préservation des terres des Indiens du Brésil. Grâce à ce voyage, 12 fondations réussissent à récolter des fonds pour créer un parc national dans la région du Xingu, devenu aujourd'hui, avec ses 8,5 millions d'hectares, l'équivalent de 3 fois la Belgique, l'une des plus grandes réserves indiennes du Brésil. Megaron en fut le premier administrateur, connu pour son sens aigu de la diplomatie et de la négociation. Megaron est souvent cité parmi les 100 personnalités les plus importantes du Brésil. Fier d'être 100% indien, comme le rapporte le quotidien Istoé. Il se peint le corps pour mener ses combats. Vit nu lorsqu'il est dans son village. Mange de la viande de singe dans la forêt. Mais n'hésite pas à utiliser la technologie de pointe, appareils photo numériques, ordinateurs et téléphones portables. lorsqu'il bataille contre le gouvernement ou la justice fédérale. Les Kayapos sont particulièrement mobilisés contre les projets gouvernementaux de barrages et de construction d'une usine hydroélectrique sur le fleuve Xingu, dont les conséquences seraient dramatiques pour tous les peuples indigènes de la région. Notre terre est tout pour nous. Il y a la forêt, le gibier et les fruits. Nous, les Kayapos, trouvons toute notre nourriture sur notre terre, et nos rivières regorgent de poissons. Notre terre, c'est notre survie. Aho ! Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014 ? Au Nunavut, Sheila Wout Cloutier, militante inuite, 54 ans. Son peuple, qui vit dans l'Arctique depuis des milliers d'années, a constaté les premiers effets du réchauffement planétaire longtemps avant que la science ne les confirme. Ainsi, quand les premières chouettes effraies sont apparues dans les étendues glacées du Grand Nord, les Inuits ne connaissaient pas de mots pour les désigner. En tant que présidente de la conférence circumpolaire Inuit, l'ICC, jusqu'en 2006, une alliance qui rassemble 155 000 autochtones de l'Alaska, du Canada, du Groenland et de la Tchoukotka sibérienne. Sheila Wout Cloutier a joué le rôle d'émissaire au niveau international. À l'automne 2005, l'ICC a déposé une pétition auprès de la Conférence interaméricaine des droits de l'homme, accusant les États-Unis de violer les droits des Inuits après leur refus de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Sheila a donné un visage humain au problème du réchauffement de la planète, se réjouit Donald Goldberg, du Centre pour le droit international de l'environnement. Cette grand-mère de 54 ans a passé les 10 premières années de sa vie à voyager dans un traîneau tiré par des chiens. Aujourd'hui, elle vit à Iqaluit, la capitale du Nunavut, et n'a qu'à regarder par la fenêtre pour voir les effets du réchauffement planétaire. La banquise fond, le permafrost diminue. Elle espère que sa pétition en faveur des droits de l'homme montrera au reste du monde que les Inuits ne sont pas de simples victimes passives. Je ne pense pas que nous soyons condamnés à être éliminés par la mondialisation, assure-t-elle. Nous devons jouer le rôle de balise, faire comprendre au reste du monde de ce qu'il se fait à lui-même. Elle a été désignée comme candidate au prix Nobel de la paix 2007. Nous jouons le rôle d'un système d'alerte pour le reste du monde. Aho ! Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014 ? Hey, oh, hey, hey. Ainsi s'achève cette série de portraits de courrier international, fier d'être indien, de l'Arctique à la Terre de Feu. Et aujourd'hui, qu'en est-il, 7 ans après ? En 2014. Portrait, lutte et reconnaissance. À la rencontre des Sioux Lakota. Rêveur de tonnerre. De Maurice Rebex. Aux éditions Albin Michel. Vin Delbora Jr. Le futur de l'humanité attend ceux qui se présenteront avec le dessein de comprendre le sens de leur existence et d'assumer leurs responsabilités à l'égard de toute chose vivante. Qui écoutera les arbres, les animaux et les oiseaux, les voix des différents lieux de la terre. Alors que les peuples longtemps oubliés des différents continents se dressent et commencent à reconquérir leur héritage ancien, ils vont redécouvrir ce que leur dit la terre de leurs ancêtres. À ce moment-là, les envahisseurs du continent nord-américain découvriront finalement que, pour cette terre, Dieu est rouge. Oh, Préface de James Welsh, Missoula, Montana, juin 2002. Souvent, quand on parle des Indiens d'aujourd'hui, on a tendance à se concentrer sur les aspects négatifs de leur existence. Misère écrasante, problèmes sociaux, alcoolisme, toxicomanie, famille dysfonctionnelle, chômage chronique, absence d'espoir de lendemain meilleur, particulièrement chez les jeunes. Cela a d'ailleurs poussé un nombre alarmant d'entre eux à la mort volontaire, devenue pour eux la seule issue possible face à une existence condamnée. Heureusement, il y a un autre aspect de la vie indienne qui mérite toute notre attention. Il n'est peut-être pas aussi visible ou démonstratif que le côté négatif, mais il est là, subtil, et s'offre à qui sait observer. C'est ce que nous permet de voir Maurice Rebex dans ses remarquables photographies de Lakota. Regardez ces visages et vous verrez l'émerveillement et l'excitation des enfants, la fierté et l'amour des parents, la force et la sagesse des anciens. Voilà des gens qui ont appris à survivre et parfois même à triompher de l'adversité. Si vous cherchez de belles voitures et de jolies maisons, oubliez les photos de Maurice Rebex. Rien de tel n'existe en pays Lakota. Ce qui existe par contre, c'est un sens aigu de la famille et de la communauté. Une force intérieure et une grande fierté en chaque individu. Voilà des gens qui vivent ensemble, qui travaillent au devenir de leur peuple. Des gens qui honorent Wakantanka, le grand esprit, et qui réalisent combien il est important de maintenir leur identité tribale autant que leur identité personnelle. Au fil des ans, je me suis rendu sur toutes les réserves Lakota et j'y ai tissé de nombreux liens. J'ai pris la parole dans les universités tribales, les lycées et les centres communautaires de Pine Ridge à Rosebud, en passant par Standing Rock. J'ai écrit un documentaire, Last Stand at Little Big Horn, et un livre, C'est un beau jour pour mourir, qui traite tous deux de la lutte que les Lakota ont menée pour défendre leurs terres contre l'invasion américaine. C'est un jeune Lakota que j'ai choisi pour héros de mon dernier roman, À la grâce de Marseille, et Charging Elk. Comme bon nombre des siens, il prend part au Wild West Show de Buffalo Bill, qui le mène jusqu'en France, où il se retrouvera isolé et perdu dans un monde qui lui est totalement étranger. En Amérique comme ailleurs, dans la réalité comme dans les romans, les Lakota ont su faire preuve de courage et de force d'âme. À travers ses photographies d'une grande sensibilité, Maurice Rebex a su saisir l'esprit des Lakota. celui-là même que j'ai perçu dans mes liens avec eux et qui a nourri deux de mes livres. Voici un peuple qui a fait preuve de force, de résistance et d'adaptabilité et qui laisse voir sa fierté d'une tradition transmise de génération en génération. Il n'est pas nécessaire d'analyser ces photos pour voir qu'en dépit de tout ce qu'ils ont enduré, ces gens resteront toujours des Lakota. Rêveur de tonnerre est un livre, un recueil de photos, comme il vient d'être souligné, accompagné de paroles de ceux qui continuent à transmettre leurs traditions. Ce sont ces paroles qui sont à elles-mêmes des photos. Amérindien, portrait, lutte et reconnaissance. Prochaine émission. Suite de Rêveurs de tonnerre. Merci et à bientôt dans la quatrième dimension. Hey,